Ve si l'on reconnaît pour juste ce qui est juste et pour faux ce qui est faux, on parvient à la vérité et l'on poursuit de juste désir. Nous avons vu la dernière fois que il ne suffit pas de savoir distinguer entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. À première vue, cela paraît le point le plus difficile. Il est de toute évidence que si chacun doit trouver pour lui-même, c'est un très long travail et que l'on peut passer toute sa vie à faire des expériences innombrables qui petit à petit vous éclaire sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi il est plus facile de s'en remettre à quelqu'un qui a fait le travail avant vous et à qui il suffit de demander « Est-ce que ça c'est vrai ? Est-ce que ça c'est faux ?» Cela a évidemment un grand avantage. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. Parce que si on a le désir que les choses soient d'une certaine manière, et que ce que l'on préfère soit juste, on n'est pas toujours prêt à écouter le bon conseil. Cette dernière phrase, et l'on poursuit de juste désir, qui paraît presque un lieu commun, et peut-être la partie la plus difficile du problème. Fait de reconnaître pour juste ce qui est juste représente déjà une réalisation assez considérable. Ils vous disent, ou plutôt dans ce livre, dans cet enseignement, on vous dit des petites phrases qui paraissent si simples. Si l'on lit sans réfléchir suffisamment, on se dit, ben, c'est évident, on ne reconnaît pas juste ce qui est juste. Et pour faux, ce qui est faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'abord, il y a la difficulté du discernement. Et puis, il y a le fait de reconnaître, c'est-à-dire d'admettre que ça est juste. Et surtout, peut-être encore plus difficile de reconnaître que telle chose est fausse. Au fond, pouvoir discerner exactement ce qui est faux, ça implique une telle sincérité dans l'aspiration, une telle volonté de vouloir être vrai, que rien que cette toute petite phrase, reconnaître pour juste ce qui est juste et reconnaître pour faux ce qui est faux, est une réalisation très considérable. La conclusion, on parvient à la vérité, est une grande promesse. Il y a des enseignements qui disent qu'il ne faut pas avoir de désir du tout. Ce sont ceux qui tendent vers le retrait total de la vie. Pour entrer dans l'immobilité de l'esprit, l'absence de toute activité, de tout mouvement, de toute forme, de toute réalité extérieure. Pour atteindre à ça, il ne faut plus avoir de désir du tout. C'est-à-dire qu'il faut sortir complètement de toute volonté de progrès. le progrès lui-même devient quelque chose d'irréel et d'extérieur. Mais si l'on reste dans cette conception du progrès et que l'univers tout entier est dans une progression, alors ce qu'il faut, c'est déplacer l'objectif du désir au lieu de le tourner vers les choses extérieures, artificielles, superficielles et égoïstes. Il faut l'ajouter comme une force de réalisation à l'aspiration orientée vers la vérité. Et ces quelques mots sont une preuve que, essentiellement, l'enseignement du Bouddha ne détournait pas de la réalisation dans le monde, mais de ce qu'il y avait de faux dans la conception et dans l'activité telle qu'elle se poursuit dans le monde. Ce qui fait que son enseignement d'échapper à la vie, ce n'est pas d'échapper à une vie qui serait l'expression de la vérité, mais à la vie illusoire telle qu'elle est vécue ordinairement dans le monde. Monsieur Bidou nous dit pour atteindre à la vérité et pour avoir le pouvoir de réaliser cette vérité, il est nécessaire d'associer la conscience spirituelle à la conscience mentale progressive. Et certainement, ces quelques mots prouvent que cela aussi était la conception originelle de l'enseignement bouddhiste.